Merci à toutes. Je crois qu'on va passer à la deuxième partie avec des exemples plus concrets, des cas pratiques, comme on les a appelés, d'exposition, avec deux nouvelles intervenantes, Martine Lacasse et Lucia Pessapane, que je vais présenter brièvement. Voilà, si je retrouve mon petit papier. Pour vous présenter, Martine Lacasse, vous êtes docteur en histoire et théorie de l'art, et vous vous intéressez à la question de la représentation des femmes peintres, notamment sous l'Ancien Régime. D'ailleurs, dans le double sens de ce terme représentation, comment elles sont représentées dans les tableaux et ce qu'elles représentent elles-mêmes en tant qu'artistes. Et vous avez consacré en 2015 un ouvrage au seuil à ce sujet, des femmes peintres du 15e au 19e siècle, et vous êtes la commissaire d'une exposition qui n'a pas encore ouvert, malheureusement, pour les raisons qu'on sait, au musée du Luxembourg, une exposition intitulée Peintre femme de 1780 à 1830, naissance d'un combat. Donc on va vous entendre en premier, mais je présente aussi Lucia Pessapane, que je vois aussi sur mon écran. Vous êtes également historienne de l'art, vous avez fait votre thèse à l'Université de Milan sur les artistes performeuses dans les années 70, et vous avez occupé différentes fonctions dans des institutions publiques françaises, le Centre Pompidou en tant que chargée de recherche, la RMN, et notamment pour l'exposition Niki de Saint-Phalle, et la Monnaie de Paris en tant que responsable de la programmation des expositions et commissaire d'exposition vous-même. Et vous venez nous parler d'une très belle exposition qui a eu lieu à la fin de la programmation contemporaine de la Monnaie de Paris et qui était consacrée à Kiki Smith. Martine Lacasse?
Oui, mais je voudrais juste préciser sur enfin, les éléments que vous avez pu donner sur mon parcours. Moi, initialement, je n'ai pas du tout travaillé sur cette question spécifique de la représentation des femmes, mais sur la représentation elle-même, puisque j'ai fait une thèse sur la notion de construction de la ressemblance à partir des récits mythiques de fondation de la peinture. Et mes travaux antérieurs se sont davantage intéressés à ces chefs-d'œuvre qu'on qualifie de non-genrés et qui effectivement sont plutôt des œuvres de maîtres masculins. Et en fait, le trait commun, le fil conducteur de mon travail a été plutôt une interrogation sur la peinture et sur le discours dominant, sur peut-être la rhétorique écran qui empêche d'avoir une approche plus fine, plus subtile de la peinture en imposant un discours qui la maintient, je crois, à une certaine distance sécuritaire. Je me suis d'abord intéressée à la peinture de la Renaissance, notamment avec cette question de la ressemblance et cette soi-disant marche du progrès vers une plus grande vraisemblance de la représentation. Ensuite, à la question du désir, et si je suis arrivée à cette question des peintres femmes, c'est à travers un travail donc, qui s'est fait sur la question du désir, où j'ai vu que ce désir, non pas seulement comme sujet iconographique, mais aussi comme contrat entre le peintre et son œuvre, entre l'œuvre et le spectateur, eh bien, incluait très souvent cette question de la femme. Et à partir de là, donc, j'ai fait ce travail sur la question des femmes peintres, de la Renaissance jusqu'à l'aube du 19e siècle, et en interrogeant justement le discours de l'histoire de l'art dans ses fondements, dans ses discours de légitimation. Donc, ce n'est pas ma spécialité, et mon travail initial sur la peinture informe quand même ce que j'ai pu faire dans l'exposition pour le musée du Luxembourg. dans la mesure où, et là c'était une constante des interventions de ce matin, c'est un travail sur l'histoire, sur cette rhétorique de l'histoire et sur ce discours dominant qui occulte aussi une réalité avec une nécessité de, depuis le point où nous nous trouvons, de retourner vers le temps, que la période, les œuvres que nous étudions en tant que commissaire ou historien, d'étudier, de faire ressurgir des documents qui ont été occultés, mais aussi d'interroger le discours d'aujourd'hui. Et si j'ai choisi cette période 1780-1830, d'abord parce que c'est une période qui est très souvent occultée. Quand on s'intéresse à cette question des artistes femmes, on constate que c'est plutôt la deuxième partie du 19e siècle qui est privilégiée, que ce soit dans les expositions monographiques ou les expositions qui concernent une période, avec un net accent notamment sur l'impressionnisme hein, pour la fin du 19e siècle, et que on a aussi une sorte de rhétorique convenue pour expliquer cette absence, cette invisibilité, cette minorité de ces artistes dans cette fin du 18e et ce début du 19e. Donc, ça a été c'est un travail qui a deux axes, puisqu'il est sociologique, qu'il vise justement à redonner voix à des documents qui sont très souvent tus et qui, en étant tus, permettent d'écrire une histoire qui serait plus facilement audible, qui rentrerait plus dans les cadres et de l'histoire dominante et aussi du discours que l'on tient aujourd'hui, à savoir d'expliquer en le déplorant ce statut minoritaire de victime qu'auraient les femmes, et puis qui construit une sorte de récit national de l'histoire de l'art au profit de la grandeur, au profit des grands mouvements, au profit aussi de la thématique de la rupture, de la nouveauté. Donc, pour construire l'exposition, je suis partie de ce qui est le plus connu du grand public, à savoir la qualité de femme exceptionnelle. Donc, les œuvres qui ouvrent le parcours nous présentent bien sûr Elisabeth Vigée-Lebrun, une autre artiste qui est un petit peu moins connue, mais qui l'est quand même davantage que toutes les autres qui sont présentes dans l'exposition, Adélaïde Labuguillard, et là encore en insistant sur ce qui est qualifié de moment exceptionnel, à savoir leur double admission à l'Académie royale de peinture. Mais très vite, je contextualise ce qui est encore présenté comme quelque chose d'exceptionnel, en sachant que le registre de l'exceptionnalité est celui qui a prévalu très longtemps en histoire de l'art, depuis la Renaissance jusqu'à cette période, puisque quand une femme est artiste, elle s'inscrit hors des qualités de son genre. Elle devient autre chose qu'une femme. Elle est et si elle touche au génie, c'est parce que un esprit masculin lui aurait été insufflé. Et en fait, pour se défaire de cette rhétorique, j'ai convoqué le contexte, qui est un contexte politique, un contexte institutionnel, où on voit que l'Académie royale à ce moment-là est sujette à des controverses tant internes qu'externes, des changements de société sur les pratiques sociales, les pratiques de distinction, dans lesquelles l'accès à l'éducation en général et à l'éducation artistique crée un contexte favorable à le développement de la formation. Le contexte politique aussi, puisque dans ce moment où l'Académie royale est contestée, puis supprimée, où on a une ouverture du salon à tous et à toutes. Donc, la petite portion d'artistes qui appartenait à l'Académie royale et la grosse portion qui relevait plutôt de la corporation. Donc, cette ouverture justement à l'ensemble de la communauté artistique. Ce que je disais précédemment, cet engouement pour la formation constitue un contexte extrêmement favorable à l'émergence de ces femmes. Et j'ai convoqué aussi des documents qui sont un peu souvent convoqués, des prises de position qui n'émanent pas simplement de femmes qui se seraient révoltées, mais aussi d'artistes masculins, d'académiciens qui s'avèrent favorables justement à cette formation des femmes. Parce que quand on parle justement de cette période, très souvent ce qui est invoqué, c'est le discours du comte d'Angivillé qui s'oppose justement à la mixité, qui rappelle l'interdiction d'un rapprochement au sein des ateliers entre les hommes et les femmes. Et quand on convoque les documents de l'époque, on s'aperçoit que cet interdit de la mixité n'était absolument pas avéré, puisque dans les ateliers logements du Louvre cohabitaient hommes et femmes, que l'activité de copiste était une activité qui était pratiquée tant par les hommes que par les femmes, que les ateliers de formation féminine ne sont pas le fait unique de celui de David, qui a une durée assez courte. On parle aussi très souvent pour justement justifier cette victimisation, cette invisibilité des femmes, que pour des raisons de décence, l'atelier de David aurait été, il aurait reçu l'ordre de sa fermeture. Si effectivement l'atelier de David est fermé en 1787, au printemps 1787, en fait, dès l'été 1787, Regnault va ouvrir un atelier qui lui va durer 20 ans, et à la suite de cette ouverture d'atelier, une multiplicité d'ateliers de formation féminine dont le cursus est identique à celui des sections masculines vont se multiplier. Donc, il va y avoir une offre de formation énorme, donc qui va à l'encontre de cette idée que si les femmes sont invisibles, si elles ne sont pas présentes, c'est parce qu'elles n'ont pas reçu de formation. Une autre idée aussi convenue qui vient justifier cette invisibilité et qui nous aurait soi-disant obligés d'attendre la fin du 19e avec l'accès à l'école des beaux-arts, c'est l'interdiction de la pratique du modèle vivant, de l'étude du nu. Ça aussi, on s'aperçoit en regardant les œuvres et en lisant les témoignages de l'époque et en lisant les réactions dans la presse à ce moment-là, qu'il y a une étude du modèle vivant par les femmes. Et donc, ce motif, cette raison qui est là aussi invoquée, encore une fois, pour expliquer leur invisibilité, qu'elles n'auraient pas pu pratiquer la peinture d'histoire, qui est le genre dominant, parce qu'elles n'avaient pas pu avoir accès à la pratique du modèle vivant, tombe, puisque elles étudiaient le modèle vivant et elles ont pratiqué la peinture d'histoire. Là aussi, pour défaire cette rhétorique, cette question de la peinture d'histoire est très souvent invoquée. Et là aussi, quand on retourne aux documents de l'époque, au pourcentage des œuvres, au livret des salons, si on dit que oui, un tiers des exposantes faisait de la peinture d'histoire et les deux autres tiers pratiquaient les genres mineurs parce qu'elles y auraient été destinées du fait de leur genre. Si on compare ça à la production masculine, on s'aperçoit qu'on a exactement le même pourcentage, c'est-à-dire un tiers d'hommes pratiquent la peinture d'histoire, les deux autres tiers pratiquent les genres mineurs. Pourquoi? Parce qu'au sortir de cette période révolutionnaire, qui est une période de grande crise économique, de fuite des mécènes, de fuite des commanditaires qui étaient commanditaires de ce type d'œuvres sous l'Ancien Régime, et pour des raisons économiques, pour des raisons de survie professionnelle, les artistes, qu'ils soient hommes ou femmes, majoritairement se tournent vers les genres mineurs parce que c'est ce que demande le public à ce moment-là. Et il se trouve que les femmes qui, selon le discours dominant, y étaient majoritairement destinées, eh bien, vont exceller dans ce genre et tenir une place extrêmement importante au salon. Défaire aussi des discours convenus sur le fait, par exemple, que le 19e, qui est perçu d'une façon globale, c'est pour ça qu'on a aussi choisi une période assez courte, pour, justement pour aller dans une connaissance fine. Donc, cette vision un peu sombre du 19e qui confinerait les femmes dans l'espace domestique, eh bien, en ce tout début du 19e, on s'aperçoit que des femmes voyagent, qu'elles sont présentes aussi dans un lieu qui est lui aussi réputé comme étant strictement homosocial, à savoir par exemple l'Académie de France à Rome. Il se trouve qu'en ce début du 19e, il y a des artistes femmes qui sont présentes à l'Académie de France à Rome, pas en tant que pensionnaires, mais en tant que peintres. C'est le cas par exemple d'Hortense Burlesco, qui suit son maître, Guillaume Guillon-Lettière, qui a été nommé directeur, qui va y demeurer pendant 8 ans et qui, pendant ces 8 années, va faire des envois au salon depuis Rome. Le voyage en Italie aussi, là aussi qui est considéré comme étant un privilège et un apanage masculin, on s'aperçoit qu'il est aussi à cette époque pratiqué par certaines artistes. C'est le cas par exemple de Julie Duvidal de Montferrier, devenue Julie Hugo, le cas, je le citais, de Hortense de Burlesco, et aussi d'une immense paysagiste, Joséphine Sarrazin de Belmont, qui a été une élève de Pierre-Henri de Valenciennes, qui se rend très souvent en Italie, qui va là aussi tenter une... Enfin, avoir une expérience qui semble impensable avec cette vision là aussi complètement fabriquée qu'on a de ce début du 19e. En 1830, elle va s'isoler pendant 3 mois dans une cabane dans les Pyrénées, seule, donc une situation qu'on imagine absolument pas pour une femme de ce début du 19e. Et produire des huiles sur carton donc de ce paysage qui l'entoure, et au salon de 1831 exposer cette centaine de cartons, enfin d'huiles sur carton, quelques œuvres de grand format sur toile qu'elle a réalisées en atelier à partir de ses œuvres, et ces œuvres vont être saluées par la critique. On a convoqué aussi des critiques de l'époque qui permettent de contrebalancer cette vision uniformément misogyne qu'on véhicule sur la critique de ce temps. Donc, multiplier les discours, certes, il y a un discours misogyne qui se maintient, mais il y a aussi une autre parole qui surgit et qui est favorable à ces artistes. Donc, on a une première section qui s'intéresse à ces conditions d'émergence d'une féminisation de l'espace de production artistique. Une autre section qui s'attache au moment de la formation, donc avec ces multiplications d'ateliers, des ateliers... On parle des maîtres, mais là aussi, j'ai mis l'accent sur le fait que il n'y a pas que des maîtres, il y a des maîtresses d'atelier, même quand l'atelier est au nom d'un maître. Très souvent, ils travaillent en binôme avec leurs épouses, d'anciennes élèves, des amis qui sont des formatrices. Et puis, après cette génération des pionnières, eh bien, celles qui sont devenues des artistes professionnelles deviennent elles-mêmes des formatrices à la tête d'ateliers qui sont extrêmement réputées. Et là aussi, on a convoqué des textes de la presse, par exemple, là, on a un grand panneau qui donne un extrait de la rubrique nécrologique d'Hortense Haute-Burlesco. Et le journaliste de l'époque, qui est un critique extrêmement éminent, Augustin Jalles, mentionne son atelier, qui est un lieu mondain, puisque toutes les jeunes filles de la bonne société considèrent qu'il faut passer par cet atelier, parce que c'est le lieu où être. Et l'histoire de l'art, si vous voulez, a complètement occulté ces moments de formation, ces moments de professionnalisation. Quand on parle des ateliers féminins, et ça, même dans la littérature consacrée à cette période, eh bien, on entend parler que de l'atelier de David, tout le temps, l'atelier de David. Alors qu'il y a une multiplicité d'ateliers qui forment des artistes qui sont tout aussi éminentes et tout aussi importantes dans la réception qu'en avait le public et la critique à ce moment-là, que ce qu'on appelle le groupe des Davidiennes. Donc, convoquer des documents, et c'est en ça qu'il y a un véritable travail d'historien, puisqu'on s'aperçoit que l'invisibilité, finalement, elle est le fait de l'histoire qui s'est faite à partir de la seconde moitié du 19e, que la perception des artistes femmes, le discours qui était tenu sur leur travail dans ce début du 19e n'était absolument pas celui qui s'est imposé dans la deuxième moitié et qui a perduré au 20e et parfois même jusqu'à aujourd'hui. Et donc notre troisième section, elle est consacrée au salon. Là aussi, elle vient défaire une idée très répandue comme quoi le genre qui permettrait d'accéder à la visibilité serait le grand genre, le genre de la peinture d'histoire. Là aussi, j'ai accroché quelques peintures d'histoire, finalement en nombre beaucoup plus restreint que ce qu'on appelait à l'époque des peintures de genre historique, qu'on appelle aussi le style troubadour, des portraits, puisque justement dans ces années-là, eh bien, grâce à ce succès que remportent majoritairement ces artistes femmes dans ces genres mineurs, eh bien, on constate un infléchissement de la hiérarchie des genres qui s'est imposée comme structurant pour l'histoire de l'art et pour le fait de repérer des grands artistes. Il y a une multiplication de petits formats, il y a un effondrement progressif des catégories qui justement fixaient les types grand format pour le grand genre, le petit format pour les petits genres. Et là aussi, ça s'est joué sur des confrontations. Par exemple, dans la grande salle consacrée au salon, on a une grande machine donc de pure peinture d'histoire qui a été faite par Angélique Mongès, qui est une élève de David, et à proximité, une grande toile, un grand format de Césarine Davin-Mirvaux, qui traite d'un sujet lié, lui, aux mineurs, à savoir... qui est emprunté à la littérature romanesque, c'est la mort de Malek Adel, et on s'aperçoit dans ce grand format où le sujet central est un moment psychologique, un moment intimiste, un moment affectif, et bien qu'elle le hisse à la taille du grand format, de la composition de la peinture d'histoire, et qu'elle tend à faire s'effondrer ces catégories. Et donc de montrer justement de déplacer, si vous voulez, les cadres et les fixités qui permettent d'aborder le récit dominant de l'histoire de l'art, de refaire parler les documents et les œuvres, permet de comprendre finalement le rôle actif que ces femmes ont joué dans le champ de l'histoire de l'art, comment elle participe aussi à sa transformation. Donc, c'est réintroduire pour moi les femmes dans l'histoire de l'art. Ce n'est pas en tant qu'elles sont des femmes, mais en tant qu'elles sont un maillon qui permet de comprendre une autre histoire de l'art. Pas spécifiquement en tant que ce serait un art féminin, ce n'est pas du tout l'optique que j'ai eue dans cette exposition, mais en tant qu'elle se pose les questions qui alors se posaient par rapport à toute l'étendue du champ pictural. Et puis enfin, il y a une dernière section qui s'intitule « Moi peintre » et qui réunit des autoportraits. Et dans cette dernière salle, j'ai tenu à créer une confrontation entre une vue d'atelier de Marguerite Gérard et une vue d'atelier d'une artiste contemporaine, une photographe, Sabine Meyer, pour aussi mettre en avant que ce discours dominant qui se construit, privilégie certaines œuvres, une certaine articulation, une certaine esthétique et qui oublie des maillons, qui oublie des documents, porte une ombre aussi sur la perception des œuvres aujourd'hui. C'est deux vues d'atelier, plutôt que d'y voir, la femme dans son atelier, c'était de montrer que l'atelier, pour une artiste en tant qu'elle est une femme, comme pour un artiste en tant qu'il est un homme, est un espace de création d'un monde. Parce que tout artiste est un sujet qui, par son désir, a potentiellement la capacité de créer un monde. Et ce que disait Frances Maurice tout à l'heure, aider l'art à aider le monde, c'est là aussi qu'il faut le considérer. Donc, encore pour reprendre sur ce parcours, donc il y a vraiment une approche sociologique, mais qui permet de refaire parler les documents, de les convoquer dans leur diversité. Mais j'ai aussi voulu privilégier une approche des œuvres elles-mêmes, c'est-à-dire faire parler les œuvres en tant qu'elles sont des œuvres de peinture, qu'elles tiennent un discours sur la peinture, pas simplement de les voir à travers la grille de « ce sont des œuvres de peintres femmes ». Et à mon sens, c'est leur redonner vraiment toute leur place, et ça, c'est en ça que je rejoins le travail de… parce que les propos que tenait Camille Morino… faire ce genre d'exposition, effectivement, c'est nécessaire aujourd'hui de rassembler ces artistes, mais dans l'espoir qu'on ne soit plus obligé de les réunir encore et qu'on les convoque simplement parce que, voilà, tel artiste a mis en avant telle problématique, a posé tel type de composition, a posé tel regard sur le monde au même titre qu'un homologue masculin. Et pas simplement de les voir toujours à travers la grille de leurs conditions féminines. Donc, on a à l'intérieur de l'exposition des confrontations. Par exemple, j'ai mis en regard deux portraits de Madame Élisabeth, sœur du roi, un qui a été fait par Élisabeth Vigée-Lebrun, un autre par Adélaïde Labille-Guillard, pour que justement dans cette identité de modèle soit interrogée leur pratique picturale. Qu'est-ce qu'elles se posent comme problème de peinture? Parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension-là. Le seul sujet qu'elles peuvent avoir finalement pu choisir librement d'être, en dehors de tout ce que leur imposait leur condition féminine, c'est d'être peintre. Hein. Et donc, laissons, donnons-leur l'occasion d'interroger justement cet endroit où elles ont été libres, elles ont été le sujet de leur désir, à savoir dans leur pratique picturale. Un dernier point, j'ai moi aussi passé quasiment autant de temps à penser l'accrochage qu'à constituer un outil multimédia sur les réseaux de sociabilité, bon, qui malheureusement ne sera consultable que quand l'exposition sera ouverte. Et ce réseau de sociabilité qui donc fonctionne, on a des icônes d'artistes et à travers l'icône d'artiste, eh bien, tout le réseau de sociabilité qui se construit autour d'elle, à travers leur clientèle, leur parentèle, leur réseau d'amis et de connaissances, d'élèves, de professeurs. Là aussi, on s'aperçoit, quand on regarde en détail les parcours de ces artistes, eh bien, qu'elles n'étaient pas du tout isolées, mais au centre d'une vie artistique qui était totalement mixte, avec une présence dans les ateliers, puisque les ateliers sont aussi des espaces mondains, le salon, le lien avec la critique, avec la presse. Là aussi, dans ce premier 19e siècle, se mettent en place tous les traits qui vont s'accuser dans la seconde moitié, à savoir toute cette montée en puissance du critique, de la presse, dans l'intervention de la mercantilisation, de la publicité aussi. Voilà.
Merci beaucoup, Martine Acasse, pour cette présentation complémentaire des précédentes. Je vais tout de suite passer la parole à Lucia Pessapane. Merci, Lucia, et on prendra les questions après.
Oui, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je reprends la parole après l'intervention de Camille. J'étais donc responsable de la programmation artistique à la Monnaie de Paris entre 2016 et 2019. Nous avons conçu ensemble une série d'expositions. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on a présenté le travail de Kiki Smith, donc artiste américaine. Nous avons conçu la première rétrospective dédiée à son travail en France. L'exposition Kiki Smith s'inscrit dans une programmation artistique plus large, conçue sur plusieurs années à la Monnaie de Paris, qui visait à rétablir la parité entre hommes et femmes dans les musées et dans le monde de l'art plus en général. En octobre 2017, nous avions ouvert l'exposition Women House, qui était la rencontre de deux notions, un genre, le féminin, et un espace, le domestique. Nous sommes partis du constat que l'architecture et l'espace public ont été masculins, tandis que l'espace domestique a été longtemps l'espace des femmes. Cette évidence historique n'est pourtant pas une fatalité, et l'exposition Women House nous l'a démontré. En 2019, nous avons accueilli Grayson Perry, artiste ouvertement féministe et théoricien d'une nouvelle place et définition de l'homme. Ses œuvres en céramique, en métal, les tapisseries et les gravures sont autant de réflexions ironiques et grinçantes sur des questions universelles telles que l'identité, les genres, la classe sociale, la religion et la sexualité. Le parcours de l'exposition de Kiki Smith a été construit par l'artiste elle-même afin que ni les chronologiques ni les thématiques s'imposent. Le récit faisait alterner, selon ses propres mots, les chauds et les froids, les simples et les sophistiqués, les grands et les petits, l'artistique et les décoratifs, auxquels j'ajouterai aussi les spirituels et les corporels, les masculins et les féminins, l'enfance et le monde adulte, l'art médiéval et l'art contemporain. Kiki Smith fut une des premières artistes à redonner, dans les années 80, une place centrale aux arts décoratifs et à la décoration, à utiliser des matériaux auparavant négligés comme le verre, le papier, la cire et des techniques souvent considérées mineures car associé au travail des femmes, comme les tapisseries, Et par exemple, ici, vous voyez une image, une vue des salles, de la salle centrale, en fait, la plus grande, la plus haute sous plafond de la Monnaie de Paris. Donc, nous avions décidé d'exposer un cycle de ces tapisseries, il y en avait 8, des tapisseries directement inspirées au cycle de l'Apocalypse d'Angers du XIVe siècle, que l'artiste même avait vu pendant ses voyages en France. L'artiste a toujours beaucoup, beaucoup voyagé en France. Une de ses sœurs, Citon, habite à Paris en plus. Donc, vraiment, ça, c'était une des sources plus importante de son travail. Pour revenir aussi au discours évoqué tout à l'heure par Frances Maurice aussi, l'importance des arts décoratifs aujourd'hui de plus en plus. Donc, art appliqué, art populaire, art vernaculaire, j'ajouterai encore, sont des sphères que l'artiste interroge dès le début. Elle est née en 1954 en Allemagne de parents américains. Elle grandit dans le New Jersey avec ses sœurs jumelles, donc vraiment dans une famille, je dirais, matriarcale. À partir des années 80, elle propose une manière inédite d'explorer le rôle social, culturel et politique des femmes et place la notion de sororité au cœur de ses œuvres. Dans une perspective féministe, elle s'empare notamment de grandes figures de la culture judéo-chrétienne pour en proposer de nouvelles représentations. L'ensemble de son œuvre porte la marque de sa fascination pour les corps humains. En 1985, Kiki Smith suit une formation aux soins médicaux d'urgence. Elle sculpte par la suite des membres, des organes détaillés et réalistes. Les corps deviennent les reflets des passions et des souffrances de l'existence et l'utilisation de la cire dans plusieurs de ses œuvres renvoie aux études anatomiques. Toujours pendant un de ses voyages en Europe, elle a l'occasion de visiter les musées les plus importants d'Europe de sciences naturelles et elle m'a parlé longtemps aussi de sa fascination pour un musée à Florence, la Specula. C'était le plus ancien musée de sciences naturelles en Europe où sont conservés encore aujourd'hui des modèles de calques, en fait, en cire. Ce sont vraiment des vrais modèles anatomiques et c'était l'outil pour les étudiants en médecine aussi, vraiment d'étudier les corps humains. Donc, elle passe beaucoup, beaucoup de temps aussi à fréquenter ce type de musée. Les années donc 80, quand elle commence à travailler, quand elle commence à exposer, plutôt fin des années 70 à New York, donc c'est aussi une époque marquée par l'agression militaire des États-Unis en Amérique centrale. La guerre du Vietnam vient de terminer. Je cite, « C'est à ce moment-là que j'ai commencé à utiliser des images de corps pour exprimer mon propre mal-être et angoisse. » Fin de citation. Kiki Smith représente parfois tout une partie du corps humain en bouleversant les limites entre intériorité et extériorité. Elle s'intéresse au liquide organique du corps et surtout du corps de la femme. Larmes, gouttes, urine, sang menstruel, lait sont représentés à travers la cire, le verre, les papiers parce que ces matériaux arrivent, selon elle, à décrire au mieux les minuscules ou l'invisible. Ces corps sont des corps souvent souffrants. Ce sont des corps vidés de sa chair. Ce sont des corps pendus à la posture inversée, tête plus bas que les bassins. Ce sont des corps fermés en position fœtale ou au contraire ouverts en position de supplication ou de parnon. Il s'agit de poses et de postures inédites qui inscrivent son travail de manière unique dans les champs de la sculpture. Elle crée des formes hors échelle, féminines, sensuelles et en même temps brutes, fortes, dérangeantes. Elle crée des êtres puissants, installe la femme au centre de notre présent. Je cite, « Ces corps acceptent et surtout reconnaissent la beauté des accidents, des imperfections et des cicatrices qui peuvent surgir au moment de la naissance à partir de la coupure du cordon ombilical. » Fin de citation. Peu d'artistes ont osé représenter les corps dans des postures laides, voire obscènes. Paula Rigaud a peint des femmes, des dog women, et affirmé une sexualité féminine. Les deux artistes proposent des images qui ne suivent plus les canons traditionnels de beauté. Les modèles miment des comportements d'animaux, mais elles ne sont pas pour autant des êtres opprimés et leur animalité constitue au contraire une forme de puissance. Des cultures catholiques, Kiki Smith en propose une relecture à partir de la mise en valeur des grandes figures féminines. Lilith, qu'on a vu tout à l'heure, Ève, la Vierge Marie et Sainte Marie-Madeleine peuplent son univers. Marie-Madeleine, que vous voyez à gauche, est représentée avec son corps nu, couvert de ses seuls cheveux, consciente du dilemme chrétien de la fracture entre le spirituel et le charnel. À côté, j'ai mis l'image de la Marie-Madeleine pénitente de Donatello, réalisée en 1453 et conservée à Florence aussi. Vous voyez comment les sources iconographiques du travail de l'artiste de Kiki Smith, elles puissent vraiment dans les périodes de la Renaissance italienne et le Moyen-Âge. Ce sont vraiment les périodes qui l'inspirent le plus et aussi souvent aussi dans la façon de présenter son œuvre. Elle regarde beaucoup aussi les cabinets de curiosité, donc c'est cette influence et c'est ces périodes qui inspirent le travail et la sculpture de Kiki Smith. De son enfance, Kiki Smith éprouve un fort intérêt pour la Vierge Marie et ses différentes représentations, de la Vierge allaitante à la Vierge de douleur ou protectrice. Sa Virgin Mary, que vous voyez ici, cherche à rendre la réalité corporelle et l'humanité d'une femme qui a d'abord perdu son fils, au-delà de sa dimension sacrée. Voici comment on l'a exposé à la Monnaie de Paris, dans une pièce déjà très chargée. Et l'artiste, au moment de l'accrochage, a ajouté, vous voyez derrière, en bas, au sol, des vers de terre qu'elle a réalisés en papier. C'est en fait un memento mori, cette salle, donc un rappel aux visiteurs de notre propre humanité et du fait que nous sommes, notre corps redeviendra terre, donc dans un cycle pérenne de mort et renaissance. L'Annonciation, qui occupait une des dernières salles du premier étage à la Monnaie de Paris, oscille entre les masculins et les féminins. Sources sont aussi bien biographiques, une amie à l'artiste ayant subi une chimiothérapie, et artistiques, l'autoportrait de Frida Kahlo. Cette œuvre androgyne est une autre manière d'incarner une réconciliation des contraires, si typique de l'œuvre de l'artiste. Untitled représente une crucifixion au féminin. Ou plus précisément, il s'agit d'un corps d'un hermaphrodite, la partie haute est le moulage du corps de l'artiste, la partie inférieure d'un copain. C'est une œuvre faite en papier mâché. C'est une iconographie très rare dans l'histoire de l'art. Niki de Saint-Phalle avait osé représenter dans les années 60 une autre crucifixion femme, ou comme Camille l'a montré aussi dans sa présentation, prostituée. Elle s'appelle en fait Leto Crucifixion, bras mutilés, jarretière et bigoudi sur la tête. Dans plusieurs des œuvres, Kiki Smith s'empare de la chevelure féminine comme d'un motif jouant des effets provoqués par son absence ou à l'inverse, son abondante présence. Pour une femme, dissimuler des cheveux ou bien les couper n'est pas un geste culturellement anodin. Chez Kiki, la thématique a une résonance d'autant plus personnelle que son prénom, Chiara, renvoie à Chiara d'Assisi, dont la chevelure fut coupée en signe de renoncement. Un autre chapitre central de l'exposition était dédié aux sorcières. À travers les siècles, l'appellation de sorcière a été donnée à des femmes considérées comme dangereuses, susceptibles de pouvoir renverser la distribution des pouvoirs en place. Dans les années 60 et 70, les féministes américaines s'en emparent. Pour ces pionnières, la sorcière devient un symbole d'opposition à la norme sociale. Kiki Smith est bientôt l'une des premières artistes à inclure cette figure dans son œuvre. Pie Woman Kneeling était une commande faite par une ville allemande et ensuite refusée. Kiki Smith décide de produire quand même ses pièces. Elle produit en fait 3 exemplaires même de la même œuvre. Il s'agit d'un monument qui rend hommage aux milliers de femmes assassinées ou torturées entre 15e et 17e siècle. La plupart étaient des femmes veuves, célibataires ou sans enfants, et pour cela jugées par le pouvoir patriarcal comme des sorcières. C'est étonnant qu'en Europe, il n'y a aucun monument public qui leur rende hommage. Et en faisant cette sculpture, Kiki Smith a voulu rattraper cette manque. Cette femme nue en bronze, massive et errante, ouvre les bras en manifestation d'innocence et appelle à la justice. Avec un geste symbolique, l'artiste a placé, pendant les moments de l'accrochage, cette petite coquille en feuille d'or, en fait, derrière la sculpture, il y a encore des vitrines. Donc, elle a ouvert une de ces vitrines, elle a placé cette petite coquillage en feuille d'or sans donner trop d'explications. Elle travaille. Et donc, après, nous avons imaginé qu'en fait, les Vénus sortent des œufs, debout, dans les conques d'un coquillage, comme donc la naissance de Vénus de Botticelli nous le montre. Donc, le coquillage, c'est un symbole de renaissance, d'espoir, d'une nouvelle société plus égalitaire. Donc, la sorcière représentée par l'artiste n'est pas morte. La sorcière, toutes les femmes donc, tuées, assassinées pendant des siècles, ne sont pas mortes en vain. Ces sacrifices ont ouvert la voie à d'autres femmes, à d'autres générations de combattantes qui ont obtenu les droits qu'elles revendiquaient. Un autre chapitre était dédié aux héroïnes fantastiques. L'artiste demeure profondément marqué par les contes, notamment des frères Grimm et de Hans Christian Andersen, dont son père lui faisait la lecture dans son enfance. À partir des années 90, elle déploie un univers fantastique et multiple et multiplie les références à des grands récits merveilleux qu'elle réinvente parfois. Ici encore, vous voyez certaines références et similitudes avec le travail à nouveau avec Paul Arego, qui elle aussi s'inspire et utilise les contes des fées et surtout les petits chaperons rouges et Blanche-Neige pour ses œuvres. Ici, vous voyez une pièce qui nous a servi aussi pour l'affiche de l'exposition. Donc, Alice au Pays des Merveilles, comme je disais, Blanche-Neige, le petit chaperon rouge sont les plus récurrents dans son œuvre. Elles sont les héroïnes idéales pour montrer l'affirmation de la sexualité féminine, les tourbillons des sentiments qui lui sont associés. À travers ces personnages, elle réinterprète les identités féminines dans les contes traditionnels occidentaux. Elle-même, souvent, se déguise en sorcière ou en Blanche-Neige. Vous la voyez ici, par exemple, dans une photo de la série Sleeping Witch. Alice était installée dans une des cours, dans la cour de la Méridienne à la Monnaie de Paris, avec une série de gravures aussi dédiées à ces personnages. Dans les années 90, ces personnages féminins apparaissent de plus en plus en lien avec la nature et les mondes animaux, selon une approche empreinte de spiritualité. Dans les œuvres de Kiki Smith, femmes et animaux, moutons, loups, oiseaux, chats, biches, coexistent souvent de manière harmonieuse. Parfois, les corps se relient et des fusions opèrent, indépendamment de toute vraisemblance de taille et d'échelle. L'œuvre de Kiki Smith s'apparente ainsi à une traversée une quête romantique de l'union des corps avec la totalité des êtres vivants. À ses yeux, être artiste signifie aussi se préoccuper de notre époque et rétablir une harmonie entre nature et culture à l'aide de gestes et de techniques souvent jugées mineures dans l'histoire de l'art, car tenues pour féminin. Sa tentative personnelle de restauration écologique, amorcée par des gestes de nature poétique, trouve des points de convergence dans l'écoféminisme contemporain. Née aux États-Unis au début des années 80, en même temps que la peur du danger nucléaire, les mouvements trouvent un nouvel élan dans la société actuelle, menacée par d'autres catastrophes naturelles. Les modes d'approche des écoféministes, tout comme la pratique artistique de Kiki Smith, souhaitent revaloriser ce qui a été dévalorisé, c'est-à-dire le lien librement consenti avec la nature et la corporéité. La dernière œuvre que vous voyez accueillait les visiteurs à l'entrée de l'exposition à la Monnaie de Paris. Il s'agit de Sleeping, Wandering, Slumber, Looking About, Rest Upon, et qui représente Geneviève, la sainte patronne de Paris, souvent montrée en bergère, entourée d'une assemblée de moutons, symbolisant le peuple sauvé. Ni imposante, ni monumentale, femmes et animaux coexistent en paix et nous invitent à la contemplation. Ils dorment en harmonie, l'animal veille sur la femme. Pour conclure, tout le travail de Kiki Smith peut être lu comme une quête perpétuelle vers le spirituel, d'éléments microscopiques aux organes, des organes au corps dans son ensemble, puis du corps au système cosmique. L'artiste explore les relations entre les espèces et les échelles, cherchant l'harmonie qui nous unit avec la nature et l'univers. Pour conclure, je voulais aussi vous donner quelques chiffres pour confirmer ce que Camille et Frances Maurice aussi disaient, c'est-à-dire que les expositions d'artistes femmes marchent. Nous avons eu confirmation avec les chiffres et les entrées obtenues avec les expositions Kiki Smith, mais aussi Women House, en sachant que les 50 000 visiteurs pour un musée comme la Monnaie de Paris, qui est à côté de la gare d'Orsay, qui est en face du Louvre et du Centre Pompidou, donc la concurrence était vraiment extrême, disons. Nous étions satisfaits de la réception aussi par la presse qui nous a suivis toujours. Nous avons toujours obtenu des papiers et les visiteurs, nous avons vu qu'ils sont aussi venus plusieurs fois à visiter nos expositions. Donc tout cela confirme si niveau statistique et des chiffres, parce qu'aujourd'hui on parle aussi très souvent de ça dans les musées, confirme que les expositions d'artistes femmes de groupe ou monographie marchent. Donc, Kiki Smith a clôturé un programme d'exposition en 2019 de la Monnaie de Paris et avec donc cette très belle première rétrospective dédiée à l'artiste en France. Merci.
Merci beaucoup, Lucia Pessapin. Merci à toutes les deux pour la présentation de deux projets, l'un qu'on n'a pas encore vu et qu'on va aller voir au Musée du Luxembourg dès que ce sera possible. L'autre, qu'en tout cas moi personnellement j'avais vu à la Monnaie de Paris et qui était effectivement une très très belle exposition. Du coup, je pense la découverte de cet artiste, Kiki Smith, qui vient elle-même d'une lignée d'artistes d'ailleurs, mais qui est sans doute insuffisamment connue en France. Alors, on aura peut-être moins de questions étant donné la nature de ces présentations qui étaient davantage ciblées sur des expositions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Laetitia, je n'ai pas son nom. Pourquoi l'histoire de l'art à partir de la moitié du 19e, 20e jusqu'à aujourd'hui a effacé, minimisé, victimisé les femmes qui, comme vous nous l'avez expliqué, avaient quand même leur place et une certaine reconnaissance fin 18e et début 19e. À votre avis, peut-être que la question se est posée à toutes, mais en tout cas à Martine Lacasse.
Je pense que c'est en fonction aussi de la construction du récit de l'histoire de l'art qui a, comment dire, aussi personnalisé des moments. La Révolution étant une de ces moments histoire personne où justement c'est la pratique de la rupture qui devient en quelque sorte le modèle qui permet de prendre place dans l'histoire de l'art, à savoir de produire du nouveau, de s'inscrire contre, de s'inscrire en rupture, qui, je pense, induit aussi toute cette valorisation du terme d'avant-garde qu'il faudrait discuter, dont majoritairement et très longtemps les artistes femmes ont pu être exclues. C'est aussi une esthétique, c'est l'esthétique du grand, au détriment du petit format, de la scène intimiste, au détriment de certaines techniques. Par exemple, dans l'exposition, on a valorisé la question de la copie, de la peinture sur porcelaine, qui sont à ce moment-là des pratiques et des supports qui ne sont absolument pas méprisés, mais qui connaissent au contraire un très très grand succès. Donc c'est encore une fois rectifier le cours, c'est interroger aussi les concepts, les outils, la temporalité que l'histoire de l'art met en avant et qui s'articule aussi avec plus globalement et d'une façon peut-être politique au grand discours démocratique et capitaliste, je crois. Faire cette histoire de l'art, c'est aussi penser notre époque, penser la façon dont il se raconte. Et c'est pour ça qu'il faut revenir aussi sur les moments de construction de ces concepts.
Merci. D'autres questions, peut-être que vous auriez entre vous. Alors moi, ça m'a pas évoqué de questions, mais j'ai quand même noté un point que vous avez évoqué, Martine Lacasse, qui était que les artistes ont cette capacité à créer des mondes, évidemment. Alors peut-être en conclusion de cette demi-journée, j'avais envie à nouveau d'élargir cette idée qu'on crée des mondes. Aux conservateurs, aux futurs conservateurs qui nous écoutent peut-être, aux historiens, aux historiennes de l'art, avec l'idée que finalement, aussi en faisant de l'histoire de l'art, on crée un monde qui existe avec ou sans la représentation des femmes, par exemple, et donc à nouveau partager entre nous cette responsabilité de faire cette histoire autrement. Donc merci à toutes pour vos interventions passionnantes. Merci aux organisateurs et organisatrices.